Good morning, everyone. If you would be so kind as to quickly take your seats. I know we have a lot of information to exchange this morning in this meeting, and we...
J'entends rien.
So,
ah, j'ai l'espagnol, moi.
Moi aussi, j'ai rien.
Where's the floor? Where's the floor? Here. I have nothing, I have no feed.
Me neither.
I have the Spanish. Good fight.
Good morning, everybody.
Bonjour tout le monde. C'est le début de l'engagement ou la réunion entre le board et différents groupes de parties prenantes, groupes constitutifs et de SO. Et de AC, etc. L'avantage prépondérant que vous avez est qu'il s'agit de notre première réunion et avec le temps, cela deviendra plus complexe. Mais je crois qu'on va tenir le coup. Le programme est mis en œuvre d'une manière à restreindre le délai imparti à chacun. Et en tant que président du board, c'est qu'on veut écouter davantage que parler. On veut parler surtout des questions qui vous préoccupent. Nous avons quelques questions qui ont affiché et nous aimerions entendre parler de vos commentaires, mais en termes de priorisation, ce sont vraiment vos préoccupations qui sont plus importantes pour nous. Et certains d'entre vous qui ne savent pas, je suis Steve Crocker, le président du board d'ICANN. Merci beaucoup. Je suis Olivier Crépin-Leblanc, président de ALAC, et Evan Leibovitch, Carlton Samuel, Tijani Benjamin. Les trois sont dans le comité exécutif at large. Renalia Abdulrahim, cinquième membre, se cache dans le public. Il n'y a pas vraiment un grand public, et Sébastien Bachelet, en dernière position. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Les questions soumises par at large. J'ai laissé le micro. J'ai ouvert le micro pendant qu'il s'organisait, qu'Olivier s'organisait, mais je voulais qu'il commence. Mais je n'ai pas introduit mes collègues du board. Au fin de table, Olga Madruga, Fuente, j'ai peut-être mal prononcé, Bertrand de la Chapelle. Je pense qu'il y a une dispute quant à la personne qui a la chance d'introduire Sébastien. Est-ce qu'il est à nous ou est-ce qu'il est à vous qui va l'introduire, qui va le présenter? C'est notre trésor à tous. Il est convoité par tous. Merci beaucoup, Steve. Nous avons plusieurs questions que la communauté à large a soumises. Il y a également quelques questions que le board nous a soumises. On n'aura pas le temps de passer en revue toute la liste. Donc, nous allons choisir et on va peut-être commencer. Quelle est l'opinion du board sur l'engagement de l'intérêt public pour les nouveaux GTLD et comment les pics vont être mis en œuvre. Et pour lancer notre premier débat, je demande à Alan Greenberg de parler. Vous avez dit pics, donc je vais commencer là-dessus, Alan Greenberg. Alan Greenberg dit merci. La préoccupation d'ALAC, de la manière où il est structuré maintenant, le bruit des haut-parleurs m'embête vraiment. La seule partie qui a été annoncée, c'est qu'il s'agit d'un processus de résolution des disputes que vous ne pouvez soumettre que si vous avez connu un dommage matériel, si vous avez l'argent et la volonté de le faire. La description du processus de sélection utilise, je ne me rappelle pas la formulation exacte, mais cela disait que ICANN protège l'intérêt public à travers la sélection. Et je ne pense pas que ICANN dirait jamais que nous protégions des marques commerciales parce que vous avez fourni un processus de résolution de disputes similaires. Il faut qu'il y ait une manière que des parties désintéressées peuvent attirer l'attention d'ICANN, qu'il y a un problème, que ce soit les gouvernements, les organisations de consommation ou bien les organismes de surveillance. Ne pas avoir à payer de l'argent, ne pas montrer qu'il y a un dommage matériel, mais peut-être que dans le cas d'un nouveau objecteur indépendant, si le processus de dispute est le seul qui existe. Mais comme il est décrit actuellement, il répond aux critères d'assurer que ces organisations satisfassent les engagements qui ont été posés. Je ne suis pas dans la série des négociations détaillées, mais ce que j'ai compris, c'est que nous voulons introduire des obligations contractuelles, y compris les mécanismes de mise en œuvre. Mais Chris a levé la main et il est bien plus proche des choses. Donc, les engagements envers l'intérêt public ou les PICS que nous avons mis en place pour avoir une meilleure compréhension des candidats de ce que étaient ces engagements que nous avons préparés pour de la discussion avec le GAC qui a dit comment est-ce que vous allez garder les candidats, qu'ils respectent leurs engagements. Donc, cela a accompli deux choses. Je gère un code de pays. Nous avons une politique intense et profonde. Nous sommes motivés par les plaintes. Lorsque les gens font des plaintes, et ils peuvent le faire, ils viennent nous trouver. Je crois que, Alain, votre argument était le suivant. Vous pensez que nous avons limité la capacité des gens à soumettre des plaintes. Peut-être que je pourrais vous demander, est-ce que vous pensez que la position correcte est que n'importe qui devrait pouvoir soumettre une plainte et qu'est-ce qui devrait se passer si cette plainte est soumise? On peut dire que c'est trop limité, mais jusqu'à quel point nous devrions aller? Alan Greenberg, je ne pense pas. Je ne peux pas répondre si rapidement, mais je ne sais pas si ça devrait être tout le monde ou bien qu'il faudrait avoir une certaine capacité. Mais le problème est que nous attendons pas que ICANN soit régule le contrat et qu'il surveille ce que tout le monde fasse ce qu'il a dit qu'il allait faire. Mais la formulation actuelle est que ICANN peut formuler une dispute s'il le choisit, mais seulement si il y a un dommage matériel. Et maintenant, ICANN n'a pas, s'il n'y a pas de dommage matériel, ICANN ne peut rien y faire. Et ICANN le peut. Donc, c'est pas formulé ainsi. Donc, je ne vais pas revenir sur la formulation. Je ne m'y connais pas assez bien, mais l'intention, d'après ce que j'ai compris, c'est que ICANN peut soumettre peut-être auto-saisie en dehors de les plaintes externes. Il faudrait prouver qu'il y a un dommage matériel et qu'il s'agit d'une tentative pour assurer qu'il n'y a pas de plainte vexatoire. Et vous pourriez me trouver une suggestion sur comment procéder, à moins que vous ne pensiez que n'importe qui pourrait effectuer une plainte à n'importe quel moment et qu'il faudrait qu'il y ait des suites. Quelle est l'autre alternative pour remplacer le système actuel? Merci. Donc, je vais prendre dit Alan Greenberg. Merci. Je ne vais pas prendre le temps maintenant, mais je vais effectuer le suivi. Bertrand Lassapelle. Une remarque rapide, la distinction claire est entre passer en revue la résolution de disputes ou bien pouvoir avoir voix au chapitre pour parler d'une préoccupation portant sur la mise en œuvre ou le respect des PIC, si j'ai bien compris votre argument. Ce que Chris dit, c'est que je crois que c'est correct, il n'y a aucune formulation qui signifie qu'à Ken travaille pas dans le contexte de la conformité. Si le candidat fournit un PIC, il devient partie du contrat. Donc, c'est l'intention. Et donc, le mécanisme de dispute est introduit afin de permettre aux parties externes d'être en mesure de soumettre une plainte. Et ainsi, il y a un certain niveau. Il y a ainsi un recours où les parties qui ne sont pas, connaissent pas un dommage direct, qui peuvent exprimer une préoccupation par rapport à une préoccupation publique de non-conformité avec les PIC. Est-ce que c'est le cas? Si cela avait été formulé ainsi, nous n'aurions pas cette discussion. Et la discussion avec la conformité implique... Olivier Crépin-Leblanc. Merci, Evan.
C'est comme de dire si quelqu'un a démontré ce qu'il fait au lieu de mettre en place une plainte. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'un précédent est déjà mis en place comme quand, lorsqu'on fait des objections aux candidatures de GTLD, tout le monde peut recevoir des plaintes de n'importe quel parti. Ils ont l'habilité de faire cela et d'aller de l'avant avec les objections. Et c'est comme ça que le processus de l'objection fonctionne. Nos activités futures peuvent être faites de cette façon-là, suivre ces directives. Est-ce qu'on peut voter là-dessus, dit Steve Crocker? Nous pouvons emprunter tout ça de nos amis de l'ITF. Merci, a dit Bertrand de la Chapelle. Nous allons passer à la prochaine question. Et comment est-ce que le ALAC puisse continuer sa mission de représenter les utilisateurs de l'Internet? Cette mission est garantie l'échec. Quel support peut-on donner à l'ALAC pour que l'ALAC puisse continuer dans son engagement? Steve Crocker, je voudrais répondre directement. Pourquoi est-ce que vous nous demandez à nous? Pourquoi ne vous demande-t-on pas à vous? Carlton Samuels, ou Tijani? Tijani Benjamin. Pourquoi est-ce que l'on vous demande, pose la question? Nous posons la question pour vous et pour nous. Quel genre de soutien nous devrions donner pour accomplir cet objectif? C'est là la question. Je ne vais pas être fastidieux. Je voulais vous demander quel genre de support vous voulez pour votre mission. Que voulez-vous faire et de quelle manière? Ne recevez-vous donc pas assez de support? Dans quelle mesure? Ce serait donc le début d'une discussion, parce que ici on trouve la question, c'est qu'est-ce que cela veut dire de représenter les utilisateurs finaux de l'Internet? C'est une bonne chose, mais dans quel respect est-ce que la mission d'ACAN en général, je suis intéressée sur le fait que ce qui motive cette question. L'assumption implicite est que plus de soutien serait bon. Combien de soutien, dans quelle mesure vous avez besoin de plus de support de notre part? Je voudrais passer la parole à Olivier. Olivier, oui, je vois vraiment une chose, que la question est divisée en deux. Représenter les utilisateurs de l'Internet, c'était juste un début. Nous ne pouvons pas complètement les représenter, mais on peut agir dans leur meilleur intérêt. Nous avons trouvé sur la littérature que ICANN publie nous représentons les utilisateurs, et ce n'est pas vraiment le cas. Ray Plazak. Steve a mentionné le support. Il y a des discussions. ALAC veut un autre sommet, a exigé un nouveau sommet. Je ne voudrais pas seulement parler de la durée du sommet qu'il demande, etc. Mais est-ce que vous m'entendez, Steve, maintenant? Est-ce qu'il s'agit de ce sommet? Je voudrais avoir plus d'informations là-dessus, parce que je présume qu'à un certain moment, si nous n'avons pas fait approcher le personnel ou pour avoir un support financier, je voudrais savoir si c'est quelque chose qui tomberait dans le domaine de la question qui a été posée. C'est un bon point. Alain, Lippi écrit pas le blanc. Alain, vous voulez répondre? Alain, non, je ne vais pas répondre à cela, mais je voudrais reposer la question. C'est moi qui ai suggéré tout ça. La question, c'était pas une question de support, mais de sémantique. Comme Olivier l'a dit, les membres du board et les documents disent régulièrement à l'AC, at large, représente les utilisateurs. Et on dit, comment est-ce qu'on contacte tous ces utilisateurs? J'aimerais vraiment savoir, je vois que la terminologie qui est toujours utilisée devrait dire, on représente l'intérêt des utilisateurs. Nous n'allons peut-être pas y arriver, mais l'autre formulation est garantie à l'échec. C'est une question de sémantique, en fait, pas de support. Je voudrais demander à Alain, comment connaissez-vous les intérêts des utilisateurs? Comment prenez-vous le pouls des utilisateurs? Il y a beaucoup trop de gens. Comment est-ce que vous savez ce qu'ils veulent? Evan? La réponse à cela, c'est que nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Les infrastructures qui étaient mises en place avec les ALS dans les régions vis-à-vis des membres individuels, cela nous permet de voir un peu ce qui se passe en dehors de la bulle ICANN d'une façon ou d'une autre. Nous avons des programmes de outreach. Les sommets, c'est bien pour les gens qui sont déjà engagés avec nous, mais nous avons vraiment un grand défi devant nous pour joindre les gens qui sont en externe, à l'extérieur de la bulle ICANN, des gens qui ne savent même pas ce que c'est que l'ICANN. Il faut essayer de les engager. Je vais vous donner un exemple. Pour moi, pour nous, la frustration, c'est le soutien pour les candidatures de TLD. Ce processus est une procédure élaborée et on a reçu des chiffres très 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 bas. Il y avait très peu de groupes qui nous ont demandé des supports. Nous, beaucoup de gens dans l'at-large, ils disaient que c'était un problème de communication pour faire passer les informations, pour nous assurer que les gens pouvaient faire des objections et qu'ils pouvaient demander du support. Donc, c'est de faire passer le message en dehors de la bulle habituelle. Et c'est ça le plus grand défi. Qu'est-ce que vous voyez? Quelle va être la synergie dans les divergences de ce que ISOC fait? Beaucoup d'entre nous portent les deux chapeaux. Beaucoup de nos structures à large sont des chapitres. Je comprends cela. Ready. Oui, je comprends. Quel est où y a-t-il divergence si on doit porter deux chapeaux? Est-ce qu'il y a des copies des efforts ici? Quelle est la synergie actuelle? Où est la synergie? Les ressources qui sont développées, parce que les organisations aussi donnent des ressources pour la même chose. Est-ce que les efforts sont coordonnés? Il y a une myriade de problèmes ici. Donc, oui, c'est un point très valide, dit Olivier Crépin-Leblanc. Il y a eu beaucoup de discussions avec l'ISOC et les chapitres ISOC. Et moi, je porte un autre chapeau aussi, donc je suis engagée dans ces discussions. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que nos structures à large sont un super ensemble des chapitres à ISOC. Et ISOC n'a pas autant d'une empreinte globale que nous avons. Et la diversité, lorsqu'il s'agit des gens eux-mêmes, dans les chapitres ISOC eux-mêmes, ciblent généralement des gens qui sont plus techniques, qui connaissent les ordinateurs. ISOC n'est pas une organisation ascendante. Quand il s'agit des ALS, cela inclut deux organisations qui sont complètement différentes, qui sont complètement différentes des ISOC, de la mission de ISOC. Il y a des organisations qui aident l'étendue de l'automatisation dans des parties du monde qui sont privées d'ordinateurs, des gens qui ne sont pas. Je voudrais passer à la question originale en ce qui s'agit du sommet. C'est peut-être un bon moment de partager ces informations. Nous avons appris énormément de la part des membres du board qui n'étaient pas là en 2009. At-Large a eu son premier sommet qui a eu lieu à Mexico City durant le meeting de ICANN de Mexico City. Les structures At-Large se sont rassemblées et ont travaillé sur des projets très spécifiques. Pendant la semaine, et nous avons beaucoup appris de cela. Une chose que nous avons appris, c'est que le temps face à face est sans prix. Cela
ça a permis à Atlash de vraiment se regrouper, de travailler ensemble. Les gens qui viennent aux réunions voient ICANN agir et par expérience, au lieu de juste de lire des informations et d'écouter des informations. C'est donc ça donne une dimension complètement différente de la façon dont ICANN fonctionne. Pour ces 100 et quelques structures Atlash qui sont venues, beaucoup d'entre eux ont vu « Ah, maintenant, je comprends ce qui se passe. » En fait, vous voyez beaucoup de nos membres ici qui sont engagés activement dans les comités Atlash ou dans la leadership de leur propre région. Ce sont des gens qui ont eu leur premier goût de ICANN lorsqu'ils sont venus à ce sommet. Donc, c'était une bonne chose. La seule chose, ou une des seules choses que nous avons appris, c'est qu'il y avait d'autres problèmes. N'était pas forcément sur le site parce que l'hôtel où on était n'était pas assez grand. Donc cela n'a pas, nous n'avons pas pu faire tout ce que nous avons pu faire. Donc en même temps, en 2009, depuis 2009, maintenant nous avons plus de 150 structures Atlash. Nous avons une augmentation énorme. Beaucoup de ces membres n'ont pas eu cette expérience de temps de face à face, donc entre eux. Même si nous avons eu des assemblées régionales, et ils n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer avec d'autres régions, parce qu'il y a leurs problèmes souvent sont très similaires d'ailleurs. Donc l'idée d'un deuxième sommet, qui a toujours été un peu prévu, mais maintenant c'est vraiment sur le devant de la scène. On espère, on est en train de voir quels sont les endroits que ICANN va visiter dans le futur. Donc, le fait qu'on nous pose déjà des questions quand on nous dit « Pourquoi pas un autre sommet ?» Nous n'avons jamais fait partie d'un sommet. Qu'est-ce qui s'y passerait ? Nous ne savons pas. Un comité a été réuni et a fait un peu de travail. Moi, j'ai rencontré le personnel de ICANN avec des membres spécifiques des comités de participation du public et du comité des finances du board. Et pour voir s'il y aurait une opportunité peut-être, surtout à Londres en juin 2014, d'avoir un hôtel assez important, assez large, assez grand, un endroit où il y aurait assez de place pour que tout le monde vienne du monde entier et que ce serait plus facile, plus centralisé et aussi un environnement qui parlerait anglais. Nous sommes multilingues, mais nous avons quand même pourrions avoir de l'interprétation aussi, la capacité d'avoir de l'interprétation. Nous avons besoin d'un environnement qui pourrait recevoir des gens du monde entier. Londres nous semble que ce serait le bon endroit pour le faire. Donc, en travaillant avec le personnel de ICANN, je veux donc le remercier aussi. Nous avons réussi à rassembler un budget, une proposition qui permettrait au comité d'Adlarge de se retrouver, mais aussi de s'intégrer dans ICANN, au sein d'ICANN, surtout maintenant qu'il y a des changements saisonniers avec un nouveau PDG, un nouveau directeur. Beaucoup de choses ont changé à ICANN depuis 2009. J'ai vu que Shaheen et Jean-Jacques, Izumi et Salah qui sont là. Donc je voudrais commencer avec Shaheen. Je suis complètement d'accord et je suis d'accord avec ce que a dit Olivier. Et je répète, nous voulons nous connecter avec la communauté, ce n'est pas assez de connecter avec les business. C'est très important de connecter avec les utilisateurs finaux. Ce serait ça le message. La meilleure façon de le faire, c'est à travers les structures Atlash. Et avoir les réunions face à face, pour moi, c'est une chose très importante que nous devons faire, pas seulement pendant un sommet, un jour ou deux, dont on a parlé hier, mais pour qu'ils viennent aussi et soient là durant la réunion entière, pour qu'ils puissent se sentir qu'ils soient intégrés dans ICANN. Je pense que, personnellement, je ne parle pas de la part d'un comité ou autre. Je pense personnellement que c'est une initiative qui vaut la peine. Merci, Shaheen. Jean-Jacques Subrena. Merci, Monsieur Subrena. Le sommet et la réponse à la question de Steve Crocker. Le sommet en premier.
sommet numéro 1 à Mexico City était un plaque tournante de la, pour la vie de, des structures à large. Je dis il, elle, elle au pluriel, parce qu'à l'époque j'étais au bord. Les à large cherchaient une espèce de reconnaissance et cela leur a été donné à ce moment-là. Et c'est là que la vitesse du travail et la signification de leur travail a vraiment augmenté de façon notable. Et aussi, ma conclusion là-dessus, oui, je suis vraiment en faveur d'un sommet, mais cela pourrait être intéressé pas seulement la communauté à large, mais au board et d'autres parties de la communauté ICANN. Et aussi, ma réponse à la question de Steve, qu'est-ce que nous pouvons avoir en dehors de ce qui existe déjà? Mon deuxième terme avec ALAC maintenant me permet de voir une fonction très intéressante qui est faite par le ALAC et les structures à large, qui est une fonction de censure. Parce que nous sommes plus près de la communauté des utilisateurs d'Internet. Nous pouvons donner à cette communauté, nous pouvons voir quelles sont les attentes de la communauté. Par exemple, ce matin, il y a eu une session très intéressante au petit déjeuner des anciens, avec qui d'ailleurs Steve est avec nous. Il y avait une concentration du débat sur un sujet, le business de nom de domaine. Et bon, nous savons très bien que maintenant que les GTLT sont devant la scène. Donc c'était pertinent. J'étais nécessaire de nous rappeler qu'il y a d'autres préoccupations pour les utilisateurs. Internationalisation, mais aussi la liberté d'expression. Donc dans ce sens, les at-large pourraient communiquer au reste de la communauté ICANN les choses dont ils n'ont pas l'habitude d'entendre tous les jours. Oui, comme vous dites Steve, vous avez raison. Nous avons bien assez de personnel. Je pense que le support que nous recevons à la LAC est très bon, superbe, mais nous sommes vraiment en mode pionnier. Le travail qui est fait par chaque membre de la LAC est énorme. Je pense qu'on devrait leur donner la chance de pouvoir penser, de comparer alors qu'ils font les tâches administratives. Je voudrais encourager le board de voir s'il pourrait avoir une personne de plus, supplémentaire, pour aider Heidi et son équipe dans ce travail.
Merci beaucoup, Jean. Izumi, je crois qu'on peut donner peut-être la parole tout d'abord à un membre du conseil d'administration. Donc, je vais laisser vous exprimer. Donc, j'ai beaucoup de sympathie pour la question que vous avez soulevée. Qu'est-ce que vous voulez obtenir et atteindre comme objectif? Mais je crois qu'il faut être très prudent néanmoins lorsque vous parlez de la représentation des utilisateurs de l'Internet. Il est extrêmement important de bien comprendre que nous parlons, et vous parlez d'un segment des utilisateurs de l'Internet. Ça, c'est plus dans l'environnement de l'ICANN. Il faut bien comprendre cela, parce que très souvent, à l'ICANN, il me semble qu'on comprend mal, et ça, c'est pour nous tous, on comprend mal leur rapport avec l'écosystème de l'Internet, parce que ça va si vite, ces évolutions sont si rapides, les mutations sont si profondes, et les utilisateurs changent de comportement également très rapidement. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre le segment que vous représentez. Il faut que ça soit très, très clair. Et j'apprécierais tout travail que vous pourriez faire pour définir cela plus clairement. Pourquoi est-ce que je dis tout cela? Parce que j'ai fait une longue enquête sur tous les documents que nous avons sur l'intérêt public. Vous avez mentionné cette mission intérêt public. Vous allez vous rendre compte que rien n'est clairement défini. Tout le monde utilise ce terme, l'intérêt du public, agir dans l'intérêt du public, mais on ne sait pas exactement ce que cela veut dire. Il faut donc le clarifier. C'est vrai pour Atlatch, c'est vrai pour d'autres groupes. Il existe donc un danger d'une mauvaise utilisation de ce terme d'intérêt public. Définissons-le tout d'abord. Donc, je soutiens tout à fait vos efforts et il me semble que ce sommet ou cet atelier, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, se concentre sur ces questions importantes, définition de l'intérêt public, par exemple. Je suis tout à fait d'accord pour que nous fassions ce sommet, cette réunion, cet atelier. Mais faisons-le d'une manière très précise. Merci beaucoup, Erika. Vous avez soulevé plusieurs points importants en ce qui concerne l'intérêt public. C'est un petit peu élusif. Comment le définir, en effet ? Dans cette commission, nous essayons de trouver une définition valide et appropriée de l'intérêt public. Il y a d'autres groupes, notamment ATRT2, qui travaillent dans ce domaine. Donc, représentation des utilisateurs de l'Internet ou d'un segment, eh bien, où est-ce qu'on agit dans les intérêts d'un segment des utilisateurs de l'Internet? Ce n'est pas, ça prête à confusion, ce n'est pas toujours très clair. Et pas seulement à l'ICANN. Donc, très souvent, on fonctionne souvent dans le cadre des GTLD. Je crois que les utilisateurs de l'Internet, pour moi, c'est déjà personne qui, parfois, ne s'intéresse pas du tout au nom de domaine, pas obligatoirement des registrants, mais des personnes qui vont sur un navigateur et qui ont envie qu'ils atteignent ainsi un site web, qu'ils ne veulent pas avoir leur propre nom de domaine obligatoirement, mais qui utilisent au quotidien un Internet qui doit être stable, facile d'utilisation. Donc, il y a des personnes à l'ICANN qui sont beaucoup plus engagées dans l'aspect ligne de conduite, définition des lignes de conduite et des politiques. Donc, Ray, vous voulez rebondir sur ce point? Oui. Pour élargir encore un petit peu ce qui a été dit, la relation entre la LAC et ISO, ça, c'est un bon exemple. Ça n'a rien à voir avec les GTLD. Donc, Izumi Azu, merci beaucoup d'avoir été très patient, oui. Eh bien, il y a 3 ans, j'ai arrêté de venir aux réunions de l'ICANN pour des raisons financières, notamment, et grâce à l'ELS, j'ai été en mesure de venir ici, donc j'apprécie beaucoup l'effort qui a été fait pour que je puisse me rendre à cette réunion. Donc, le rapport avec ce sommet, je crois que la question qui se pose, comment trouver l'intérêt commun de 2 milliards d'utilisateurs de l'Internet? Comment trouver ces segments spécifiques dans l'Internet? Être un utilisateur de l'Internet, 2 milliards de personnes, la plupart d'entre eux n'ont pas un intérêt précis pour les noms de domaine. Mais tout est lié néanmoins. Et selon moi, ce n'est pas une question pour At-Large, c'est une question pour tout l'ICANN. Si l'ICANN veut véritablement, comme vous le dites ou comme le disons, un acteur multipartite, eh bien, nous devons inclure les utilisateurs, le public, le grand public, les utilisateurs de l'Internet. Donc, c'est difficile. Et j'ai lu le papier blanc sur ce sujet et c'est un très bon départ, le R3A. Ça articule assez bien ces domaines et ces questions qui se posent. Donc, avoir un sommet avec 200 personnes ou 400 personnes sur 2 milliards, évidemment, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais c'est une première étape. Pensons aux Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ils essayent de représenter le monde entier. Ça ne suffit pas, évidemment, mais c'est une première étape. Donc, At Large, c'était en supplément de l'ICANN, mais ce n'était pas dans le courant principal de l'ICANN. Maintenant, nous avons pris beaucoup plus d'importance et nous jouons un rôle beaucoup plus grand. Donc, je ne sais pas si ça suffira, mais c'est le moment que At Large devienne véritablement un des piliers un des piliers de l'ICANN, que ça ne soit pas simplement un élément supplémentaire qui est venu en plus, mais qui soit un des fondements de l'ICANN. Merci beaucoup. Isami, est-ce qu'il y a d'autres membres du board qui voudraient commenter? Nous allons maintenant donner la parole à Solenata Domenica Caramaro. Et j'aimerais dire tout d'abord qu'il est tout à fait critique et essentiel de parler de l'intérêt public et de prendre en compte les objectifs, en fin de compte, la participation significative de tous. C'est important qu'on ait ce type de réunion. C'est bien d'aller à des sommets, mais un engagement durable, une participation durable, une représentation de la diversité, et j'insiste là-dessus, la diversité de la communauté mondiale des utilisateurs d'Internet. Ça pose un problème, parce que j'aimerais répondre à M. Crocker. Il y a une invitation à effectuer des commentaires. Que pouvons-nous faire? Ce qui est très bien lorsque nous venons en réunion d'ICANN, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui portent plusieurs casquettes. Moi, j'ai vu des personnes qui opéraient des réseaux, des ASO, et j'aimerais donc encourager les membres du board de l'ICANN à avoir une plus grande collaboration, une meilleure synergie dans l'utilisation des ressources. Lorsque nous avons des groupes d'opérateurs de réseau qui se réunissent, par exemple, eh bien, si on peut avoir des voies en parallèle, comme les ALS, les régions géographiques, MENOC, PECNOG, il y a des voies parallèles pour des processus de développement, et je sais que les ARR font leur maximum, mais je crois que ce serait un bon départ. Oui, je crois que c'est une suggestion tout à fait utile, et donc que nous remontions de la base avec ce modèle que vous proposez. Vous avez des interactions avec ces personnes qui proposent des idées, donc il y a donc un message fort qui est envoyé. Plutôt que ce soit nous, à partir du board, qui gérions tout cela, nous avons pris note de vos suggestions et nous allons demander au personnel de l'ICANN d'être plus attentif par rapport à cela. Oui, je veux remercier beaucoup Steve. Et avant de conclure, oui, Sébastien, vous pouvez tout à fait vous exprimer. Oui, je voulais rajouter quelque chose à ce que Steve vient de dire. Il y a un très bon lieu, nous pouvons faire cela. Il y a un groupe stratégique, de travail stratégique qui va être lancé, on est en train de le créer. Nous avons des représentants de chacun des régions, allez les voir, parlez-leur, c'est une bonne manière, je pense, de faire avancer vos idées. C'est une suggestion. Merci beaucoup, Sébastien. J'aimerais donc conclure sur ce sujet et voir s'il y a quelqu'un au niveau de la participation à distance qui a une question. Oui, Matashiani, une question arrivée à distance. Les ALS sont les seuls à pouvoir demander un sommet si nous sommes prêts à avoir des processus internes. 2. La possibilité de parler au nom des utilisateurs. 3. Contribution prouvable. Et capacité à recruter de nouvelles organisations de manière transparente, compétitive. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des membres artificiels à l'ICANN, ce qui est déjà arrivé à l'ICANN. Et ça, c'était très négatif. Oui, j'essaie de voir la transcription. Ça, je crois que c'est Alejandro Pisante qui a dit cela. Je suis en train de lire cette question, cette déclaration plutôt. Oui, nous sommes bien conscients que ce n'est pas facile, que c'est difficile, et ça montre bien que les commissions et la communauté ne s'endort pas et réagit très fortement à ce type de questions. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce sommet, sur la proposition que nous faisons, venez nous parler et on peut donc avoir une discussion ad hoc à ce sujet. Donc, avant de conclure, il nous reste 5 minutes. Un dernier sujet que nous pouvons soulever en simplement 5 minutes.
J'ai du mal à lire. Mes yeux sont fatigués déjà à 7 heures. Ah, j'arrive à lire. Dit Olivier Crépin-Leblanc. Comment réconcilier la nature ascendante du board des groupes La question a déjà été posée. Comment Bertrand de la Chapelle va répondre à cette question? Je pense, pour respecter la nature ascendante des choses, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de dynamique du haut vers le bas. Je n'ai jamais considéré qu'il s'agissait d'un élément contradictoire. Par exemple, vous pouvez respecter l'approche ascendante, mais initier quelque chose selon les statuts permet le board à prendre l'initiative de demander un PDP. Et cela respecte absolument l'approche ascendante. La confusion arrive lorsque il y a des commentaires pour éviter le PDP. Un exemple qui illustre une méthodologie qui est dans l'esprit de l'approche ascendante. Le groupe d'experts qui a été mis sur place sur les nouveaux services de registre, c'est quelque chose de nouveau dans le PDP. C'est quelque chose qui a été initié par le board comme phase intermédiaire pour préparer le travail d'un PDP. Au lieu de dire le personnel, s'il vous plaît, faites un rapport là-dessus, on prend des gens de la communauté, et je sais qu'il y a des gens de at-large qui sont là, Carlton en particulier y était hier, qui participent à ce groupe d'experts pour définir la question. Cela ne retire rien du PDP, mais cela définit la question. Donc, il n'y a pas forcément une tension entre les deux. La question clé qui se surgira, et je crois que le groupe de travail, le groupe d'experts y pense, c'est comment faire la transition lorsque vous arrêtez un groupe d'experts comme celui-ci, lorsque vous le passez au PDP, parce que si vous allez trop loin, c'est préjudiciable du PDP. Si vous allez pas assez loin, vous perdez l'avantage d'avoir défini la question. Steve Crocker, je vois une version de cette question auparavant, et je crois qu'il y a des manières différentes d'interpréter les termes. L'interprétation la plus restrictive est comment est-ce que le board ose participer à une discussion, et l'initiation de chaque thème ne devrait venir que du bas. Et je le dis que c'est une interprétation la plus restrictive possible. Pour reprendre ce qu'a dit Bertrand, ça va bien trop loin. Ce qui ne devrait pas se poser, qui ne doit pas se produire, c'est que les décisions soient prises en haut et qu'ils soient imposées vers au bas. Mais c'est l'autre extrême. Il y a beaucoup de marge entre les deux. Et l'une des choses utiles qui pourrait se produire à différents niveaux, boards et personnels, etc., c'est d'identifier des thèmes d'intérêt et d'initier sous différentes formes, formellement ou informellement, des discussions, mais pas seulement que cela aille aussi loin que de devenir une décision dictatoriale. Vous savez, il y a beaucoup de marge. Pour l'interprétation d'une personne pour stimuler la conversation, cela pourrait être perçu par une autre comme étant l'exercice d'un pouvoir dictatorial. Donc, il faut beaucoup de jugement sain et un bon comportement et un grand degré de tolérance. Et la croyance que nous sommes dans un processus de collaboration, c'est voilà mon opinion. Je peaufinerai cela et j'abrégerai plus tard. Oui, Plazac, dit Olivier Crépin-Leblanc. Oui, merci, dirait Plazac. J'aimerais détailler ce que vient de dire Bertrand. Ce n'est pas seulement que le board peut poser la question, qu'il puisse demander des conseils. Cela est codifié dans le document GNSO et par le GNSO, mais également par un ASO MOU où le board a la responsabilité de demander. Donc, vous regardez le processus du ascendant, ce n'est pas quelque chose qui arrive vers le, en haut. Tout le monde a un rôle, mais tout le monde a une responsabilité également. Et le board renforcerait sa responsabilité s'il ne voyait. Il ne respecterait pas sa responsabilité et s'il ne demandait pas le conseil, il poserait la question. Si le board ne le fait pas, alors il n'est pas responsable et il ne respecte pas sa mission. Merci. Nous avons Sharon Chalabi, Olivier Crépin-Leblanc et Judith ensuite. Et ensuite. Sharon en premier. Je veux parler de quelque chose qui se rapporte à cela. Plusieurs fois, nous avons obtenu des conseils du GAC et dans le cadre de notre diligence due, nous allons au GNSO et nous disons, nous avons l'intention de mettre en œuvre ce conseil. Est-ce que vous connaissez des obstacles ou bien si vous avez des objections, faites-le nous savoir. Et le GNSO a pensé que c'était très difficile à gérer parce que ils sont habitués uniquement à un processus PDP. Ils n'ont pas de mécanisme pour gérer les conseils à court terme. Donc, voilà un autre exemple, pas du haut vers le bas, mais nous avons quelque chose au niveau du board et nous devons aller aux phases plus inférieures et obtenir un conseil. Et c'est très difficile. Une des choses que nous avons discuté avec eux, c'est qu'ils doivent trouver une manière de gérer ces deux processus à part. D'abord, vous demandez un PDP, ça prend du temps et passe par le processus normal. Et le second, c'est lorsque vous avez un délai à court terme et vous avez besoin d'une recommandation avant de pouvoir continuer et de mettre en œuvre un conseil du GAC. Merci, dit Olivier Crépin-Leblanc. Chérine, réponse très brève. Evan Lebovitch. Chérine, je voulais tout simplement vous dire que lorsque vous dites que le GAC nous envoie quelque chose et que vous dites au GNSO, nous avons l'intention de mettre en œuvre ce conseil, cette déclaration en elle-même pourrait être vue comme une manière de contourner le processus ascendant. Voilà quelque chose d'en haut qui est passé au board et maintenant il est imposé au GNSO pour que le GNSO agisse d'une manière qu'il ne voudrait pas. Donc, on l'a vu dans plusieurs circonstances. Donc, si vous avez une situation où le conseil du GAC soit peut-être contre ou en contradiction avec ce qu'a dit le GNSO, est-ce que cela devient quelque chose de haut vers le bas ou bien est-ce que c'est quelque chose d'autre? Donc, maintenant, on rentre dans ce chaos de mise en œuvre, de politique et de mise en œuvre qui est une autre question. Mais comme vous avez vu, nous, avec la déclaration, nous avons reçu un conseil du GAC et nous, on veut le mettre en œuvre. Si vous, le GNSO, d'autres parties du processus ascendant ne sont pas d'accord, comment réconcilier cela? Steve Crocker? Oui, je ne connais pas la formulation précise, mais de manière abrégée, nous avons l'intention de mettre en œuvre et dites-nous ce que vous pensez. Mais on pourrait choisir une meilleure formulation. Nous avons reçu ce conseil et nous avons besoin de votre conseil par rapport à cet avis, si vous voulez. Donc, il ne faut pas. Maintenant, je vois que beaucoup de mains se lèvent. Beaucoup de gens lèvent les mains. Chérine aimerait répondre. Ensuite, on va passer par la file. Qui est close. Je reprends l'argument de Steve, dit Chérine. Une part de notre diligence due est de retourner en arrière et de chercher des conseils et de ne pas contourner le système. Merci, dit Olivier Crépin-Leblanc. Je réalise que nous n'avons plus de temps. Cependant, nous avons commencé quelques minutes plus tard. Est-ce que nous pouvons ajouter quelques minutes? 5 minutes au maximum. Donc, dans la file d'attente, nous avons Judith Vasquez, Olga Madruga, et nous... Judith? Et Park. Oui, Judith, je suis nouvelle à ICANN, au board. Et par rapport à la question de la réconciliation ascendante et descendante, j'aimerais amener sur la table le concept de la réunion ICANN comme sous forme d'une communauté pour présenter des décisions cruciales portant sur l'Internet pour les faire progresser. Et souvent, pour être franche, il me reste encore à voir que le board introduise de force une question dans l'organisation. Peut-être qu'il y a les gens pensent que c'est ainsi, mais la vérité est que nous faisons si attention de ne pas le faire. Merci beaucoup, Judith. Olga Madruga Forti. Merci, Olivier, dit Olga. Je serai brève. Je vais aller directement au vif du sujet. Lorsque j'ai lu ce point, comment réconcilier la nature descendant de board ou du personnel, j'ai tout de suite vu qu'il y avait de la frustration, de négativité dans le modèle multipartite lorsque vous utilisez une formulation telle que du haut vers le bas. Il y a une frustration qui a été exprimée donc de la perspective du board. Je ne peux qu'aborder cette frustration en disant que beaucoup des choses sur lesquelles nous travaillons sont... le temps est très important et je n'aimerais pas que notre travail et ce que nous faisons soit caractérisé comme étant de nature de haut vers le bas. Le board, pour moi, ce n'est pas vraiment en haut ou en bas, mais plutôt latéralement avec vous tous. On travaille pour atteindre les mêmes objectifs et résolutions. Donc, je ne garderai cela dans l'esprit. Et lorsque le board contacte, essaie de vous contacter, il essaie d'obtenir des rétroactions, des commentaires dont nous avons besoin pour arriver à adopter des résolutions. Donc, participer à ce processus et ne pas penser qu'il s'agisse d'une flèche empoisonnée. Olivier Crépin-Leblanc, merci beaucoup, Olga. S'il n'y avait aucune hostilité, mais non, on aime avoir des questions un peu brûlantes. Ensuite, donc, deux autres personnes de la file d'attente, E.Y.J. Park et Peralo, vice-présidente, mais je parle en tant que membre de la communauté asiatique, Asia, qui a été sous-représentée dans le processus ICANN, surtout parce que nous ne sommes pas très familiers avec le processus ascendant en Asie. Je pense que nous luttons avec ce processus ascendant, pas seulement à large, mais avec le GAC également. Donc c'est quelque chose, voilà mon commentaire. Ça pourrait être une sorte d'approche pour la communauté GAC en Asie et la communauté at large qui ont des difficultés à comprendre l'essence, la nature de ce système multipartite. Et on peut collaborer pour mieux comprendre la représentation de l'intérêt public dans ce processus. Lorsque je ne vois que les processus ICANN, vous êtes peut-être d'accord, beaucoup des Asiatiques ne sont pas vraiment représentés dans ce processus. Et l'une des raisons principales est que nous ne sommes pas très à l'aise avec ce type de nouveau processus d'établissement de politique Internet ascendant qui n'est pas dans notre culture. Donc, nous apprenons. Et c'est un processus pénible. Donc, ce qui ont des difficultés à comprendre cela peuvent se réunir et ont meilleure possibilité de travailler là-dessus. Ce serait peut-être plus constructif plus tard. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai autant d'échos. Merci, YJ. Et vous allez voir que vous n'êtes pas la seule partie du monde qui a comprendre, qui peut comprendre le processus ascendant. C'est quelque chose qui est nouveau pour beaucoup de gens. Peut-être qu'on en sait davantage dans cette communauté, ici et dans ICANN, que dans d'autres organisations. Nous n'avons plus de temps. Bill Graham a dit il veut bien ne pas s'exprimer, mais sinon, je laisse la parole à Steve Crocker. Steve Crocker, comme le veut la tradition, ces interactions font l'objet de débats directs et francs, et c'est comme ça que ça devrait se passer. Sinon, on n'utilise pas notre temps de manière efficace. Au nom du board, merci, je remercie tous les participants et j'apprécie la franchise et l'honnêteté dans les débats. Et comme je dis souvent, j'ai eu le plaisir de voir l'organisation at large évoluer d'un petit groupe embryonnaire à devenir une force puissante au sein d'ICANN. Et c'est une surprise. Donc, je suis vraiment un vrai fan et vraiment, je suis acquis à votre cause. Merci. Merci, Steve. La communauté at large le ressent. Merci à vous tous.